De VOA Afrique, le monde au féminin. Économiste et sociologue s'accordent à dire que la responsabilisation des jeunes et des femmes est la clé de la prospérité en Afrique. Comment faire le pont entre l'intention et l'action, le projet et son application, la passivité et le leadership? Alors avec moi dans le studio, Angèle Kouémo, directrice Afrique de Washington Media Group, fondatrice de Believe in Africa et d'Astrategic Group. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, Angèle.
Merci Nathalie, c'est toujours un honneur de venir ici.
Alors, vous allez pouvoir nous expliquer comment se donner les moyens d'atteindre nos objectifs particuliers à la lumière de votre ouvrage conseil intitulé, moi je l'ai traduit en français, Contre toute attente, c'est ça ?
Oui, c'est
contre
ça.
Contre toute attente, alors voilà, je ne sais pas si on le voit ici. Donc, un ouvrage vraiment fascinant, intéressant, écrit simplement, c'est des conseils, et je pense qu'avec le parcours, le cursus professionnel que vous avez, vous pouvez effectivement donner des conseils. Vous avez travaillé pendant près d'une décennie pour deux membres du Congrès, dont Bobby Rush. Vous êtes donc fondatrice de l'association du personnel africain du Congrès, CASA, et Believe in Africa vise à responsabiliser les femmes et les jeunes tout en engageant le secteur privé. Astrategic Group offre des services de conseil et de commerce international aux entreprises et aux gouvernements en Europe et en Afrique. Alors, la première question, bien sûr, pourquoi finalement vous avez ressenti le besoin d'écrire ce petit fascicule qui donne de très bons conseils à qui a des projets ou n'ose pas et devrait peut-être se lancer dans le business, dans la politique ou je ne sais quoi d'autre.
Merci beaucoup pour m'avoir invité, Nathalie. Comme je répète, c'est toujours un honneur pour moi de venir à toi, à ton show. La petite histoire, c'est que pendant mes activités en tant que conseiller en matière économique, stratégie communication et de communication, dans mes interventions dans les conférences, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les questions qui me revenaient toujours, c'était comment est-ce que j'ai pu avoir le parcours que j'ai eu. Bon, dans ce cadre-là, j'ai créé Believe in Africa, qui a pour ambition de formuler des solutions africaines aux questions africaines, surtout dans le cadre de Washington, où en général, les sources d'informations et les décisions sont prises avec pas beaucoup de regards, beaucoup d'input des Africains. Et puis, bien entendu, en tant que femme, les émancipations de la femme et des jeunes. Donc, dans le cadre de cette activité-là, donc, je vous donnais pas mal de conseils à des jeunes filles, à des jeunes immigrés. Et je suis convaincue, hein, donc, j'en ai rencontré beaucoup, hein, le Cameroun, l'Afrique, a un potentiel énorme. Et la plus grosse richesse du continent, ce ne sont pas ses ressources naturelles, ce sont ses ressources humaines. Donc des Angèles, Kouemou, il y en a plein dans les rues de Dakar, de Douala, de Chicago, de DC. Et tout ce dont elles ont besoin, c'est d'opportunités en fait pour déployer leurs ailes. Mm-hmm. Donc je me suis dit, ok, dans le meilleur moyen, le moyen le plus simple de les encourager de manière beaucoup plus efficace et en plus grand nombre, c'est de partager mon histoire et de manière pratique et d'en retirer des conseils sur mon expérience, de sorte que, tu sais, vous savez, la Bible le dit que la responsabilité des leaders, la responsabilité des gens, c'est de s'assurer que les générations qui viennent après eux accomplissent encore plus. Donc moi j'ai commencé ma carrière aux États-Unis à 35 ans, donc je me dis souvent à mes mentis que vous à 25 ans vous devez être capable d'être au niveau que j'ai atteint à 50 ans.
Ouais.
Alors ça, j'en fais une sorte de mission et... Ouais.
Et on imagine quand même que connaissant cette nouvelle génération, je crois qu'ils y arrivent là.
Ils ont un potentiel énorme. Ouais. Donc, il faut seulement lier leur énergie, leur intelligence avec le niveau de sagesse qu'on acquiert avec l'expérience. Mmh. Donc il ne faut pas les exciter, il faut les inspirer.
Mmh. C'est dans la presse.
Dans un communiqué transmis à VO Afrique, le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi a fermement condamné les slogans scandés par la milice Imbonerakure lors d'un rassemblement. Donc au Burundi, la vidéo montre des jeunes en pose martiale entonnant des slogans comme « Nous allons engrosser nos ennemis pour qu'elles enfantent des Imbonerakure. On va courir derrière elles jusqu'à nous fatiguer les pieds et les attraper. » Alors le FPS rappelle dans le communiqué que des exactions commises contre la population et des femmes en particulier ont fait l'objet de rapports détaillés par des organisations internationales de renom, et ceci confirme ce que des centaines de femmes réfugiées ont révélé donc lors des enquêtes des Nations Unies, hein, déclare l'ONG. Autre nouvelle, l'OIM dénonce l'existence de marchés d'esclaves en Libye, hein, où des migrants sont vendus entre 200 et 500 dollars. L'organisation dit avoir recueilli des récits choquants de migrants en Libye et au Niger, affirmant que certaines personnes sont vendues sur des places publiques ou dans des garages. Il s'agit de gens vendus en public assis par terre, selon Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM cité par l'AFP. Des migrants subsahariens auraient été achetés et vendus dans un parking à Sabah, dans le sud-ouest de la Libye, par des Libyens associés à des Ghanéens et des Nigérians. Certains témoignages parlent de torture et disent que les femmes deviennent des esclaves sexuels. Angèle Cuémo, vous avez aussi été conseillère principale pour Bolloré Technology Group et Geodis Overseas, et vous avez été nommée comme l'une des personnalités de la diaspora africaine les plus influentes du monde par Africa 24 Magazine. Je reviens sur Believe in Africa, et vous avez aussi créé, dans le cadre de votre ONG Believe in Africa, Be Live for Africa, ça c'est le volet culturel.
Oui.
Donc en fait la jeunesse, on l'attire beaucoup, on la sensibilise beaucoup justement à travers les œuvres culturelles, à travers ce qu'elle peut donner.
Oui, oui, mais on sous-estime l'impact que l'art du divertissement a. Vous savez, le divertissement sert à la promotion de la paix, ça sert l'augmentation, l'avancée des technologies, la créativité, la création de l'emploi. Donc des fois, l'initiative de Be Life for Africa, c'est un festival forum, c'est une discussion entre acteurs de l'industrie du divertissement et d'autres experts en même temps que combiné avec un show. Ça permet, notre mission, c'était de trouver un moyen de montrer le sérieux de cette industrie pour encourager les investissements, parce que au Nigeria par exemple, le secteur dans lequel on crée le plus d'emplois en ce moment, c'est dans la musique et le cinéma. Mm-hmm. Et donc même dans les efforts de promotion de la paix, de la même façon avec lesquels on engage les jeunes, on engage les femmes, il est temps que les institutions étatiques ou même multilatérales, l'Union européenne, l'Union africaine, le reste, qui fassent un gros effort pour optimiser l'impact de l'industrie du divertissement. Mmh. C'est un secteur qui est un petit peu négligé. C'est la raison pour laquelle on s'est un petit peu engagé là-dedans. Mais là, maintenant, en dehors de ça, vous me faites mal au cœur quand j'écoute les nouvelles par rapport à la Libye. C'est absolument inacceptable. Bon, c'est vrai que c'est connu que les femmes ont toujours été les plus grosses victimes en cas de crise. Vous avez vu le cas du Congo avec les viols et tout ça. Mais bon, moi, je dis à mes sœurs, je dis aux femmes, il est temps qu'on en parle. Il faut prendre des actions. Il y a des méthodes qui permettent d'influencer le système. Parce que je donne un exemple très simple. Vous êtes, quand vous vivez dans un pays, vous payez les impôts. Moi, je vois très bien les femmes dans toutes leurs organisations concentrer leurs efforts et demander aux décideurs de prendre des décisions. Rendre leur représentant.
Et ne plus payer d'impôts éventuellement.
Non, c'est leur droit. On voit très bien demander, quand on demande à un membre du Congrès de prendre une action, de demander.
Et c'est ce que vous faites justement. Vous faites ce genre de campagne, des campagnes citoyennes, hein, pour rappeler sur des problèmes. Bon,
malheureusement,
graves.
La diaspora n'est pas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à être très efficace sur ce domaine-là. Parce que je vous donne un exemple très simple. Il suffit que 50 individus dans un district appellent leurs membres du Congrès pour le forcer à prendre action. Mmh. Parce qu'ils ils votent, ils paient les impôts, et la moindre des choses qu'on peut demander à nos représentants, c'est de représenter, de régler les problèmes, nos concerns, comme on dit. Mmh. On n'a pas été encore, on n'est pas suffisamment efficace là-dessus, parce qu'on est encore, on évolue encore en rang dispersé.
Et nombre de citoyens ne savent même pas qu'ils peuvent le faire.
Ils ne savent même pas qu'ils peuvent le faire.
Parole de femme.
La RDC l'actualité, Angèle, vous venez d'en parler, la RDC dans la tourmente politique voit naître une nouvelle génération de jeunes qui s'impliquent de plus en plus dans les mouvements citoyens comme Filimbi ou La Lucha, dans l'espoir d'être entendus et pris en considération par leurs dirigeants. Je vous propose d'écouter une réflexion de la jeune militante congolaise Rebecca Kabougou, lauréate 2017 du prix Femmes de Courage, qui expose ici les attentes de la jeunesse engagée.
On doit me donner l'espace de s'exprimer parce qu'il y a des médias, il y a des chaînes là où tu ne peux pas passer, tu ne peux pas t'exprimer. Ou bien quand tu fais quelque chose à l'université, on dit non, ici c'est apolitique, tu es en train de sensibiliser les gens. Il faut que nos parents, il faut que nos recteurs, nos directeurs des écoles puissent comprendre que c'est la jeunesse l'espoir de demain. C'est la jeunesse l'espoir d'un peuple. C'est à nous de prendre demain cette relève si on ne nous enseigne pas. Moi, je vois le problème qui est, c'est le système éducatif. Le système éducatif ne nous donne pas cette possibilité à être responsable. Il faut qu'on nous donne, nous, en tant que jeunes, de l'espace. Il faut que moi aussi, en tant que jeune, je prenne conscience de ce que je suis en train de faire. Donc, il y a le travail du gouvernement et le travail de la jeunesse. Ensemble, c'est l'espoir du Congo.
Angèle, vous avez dit le sens de la responsabilité sociale pourrait être plus efficace si les Africains dépensaient moins d'argent sur les cérémonies funéraires et consacraient plus de ressources à la construction d'hôpitaux communautaires, développer des infrastructures, moderniser, structurer des activités sociales et plus important encore, permettez aux Africains inspirés de devenir les leaders de demain. Alors ça, c'est le regard critique. Justement, vous venez d'entendre une jeune femme qui a un regard critique sur la société dans laquelle elle vit. Est-ce que ça, c'est essentiel justement pour arriver à produire un certain impact, cet impact dont vous parlez dans ce livre? C'est l'objectif, produire un impact.
Oui, et puis bon, dans le livre, j'ai mis quelques pensées comme ça pour forcer la réflexion, parce que il faut qu'on pense notre propre système. Donc, au niveau de notre culture, c'est vrai qu'on doit la valoriser, mais il y a des aspects qui sont plus ou moins contre-productifs. Je vous donne un exemple très simple. On parle de philanthropie africaine. Il y en a plein. J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, quand je lui parlais de pauvreté dans sa communauté, il me dit, tu sais, je prends un pays comme ça au hasard, Ok, je vais prendre le Nigeria. Je lui ai demandé, mais pourquoi moi ça se fait qu'il y a autant de fortune au Nigeria et puis autant de pauvreté? Il m'a répondu, chaque pauvre Nigérian a un riche oncle. Donc ça veut dire que quand tu es riche, tu deviens des chiefs et puis tu supportes la communauté. Bon, ça c'est très bien, mais en même temps...
Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs.
Oui, bon, c'est une sorte de critère du clientélisme qui fait que, bon, on contrôle tout le monde, mais cet argent-là, cet effort-là pourrait être plus canalisé sur des projets de long terme. Je vous donne un exemple qui est très simple. Il est plus facile d'aider, se supporter à l'enterrement d'un individu que de s'occuper de lui quand il est, est malade. Donc, quand tu es malade, la famille ne va pas s'occuper de toi parce que ça coûte plus cher.
De prendre soin des morts,
vivants. Voilà, on va dépenser plein d'argent pour les funérailles, pour la nourriture et tout ça. Bon, j'ai rien contre tout ça. Mais bon, vous voyez des villages avec plein d'élites où il n'y a pas d'hôpitaux. Je trouve que c'est un peu dommage, Il faut qu'on revoie, qu'on repense.
Mais la jeunesse, d'ailleurs, elle regrette tout ça, elle en a marre, la jeunesse.
Oui, absolument. Et la jeune fille a tout à fait raison. Donc, en ce moment, il y a plein d'initiatives avec sur l'entrepreneuriat et tout ça. Mais il faut absolument qu'on c'est une bombe à retardement, notre jeunesse. Il faut absolument qu'on la canalise, qu'on la forme, qu'on la prépare, qu'elle soit responsable, qu'ils deviennent tous des citoyens responsables. Ça veut dire qu'il faut qu'on les forme par rapport à leurs droits, qu'on les forme comment est-ce qu'ils vont formuler leur doléance. Il faut qu'on les encourage à la représentativité. Entrer en politique, c'est pas forcément être ministre, c'est pas forcément être leader de la société civile, c'est être membre de la commune. Parce que c'est là que le...
C'est là que ça commence.
C'est là que ça commence. Et c'est là où je peux mesurer le plus gros impact, dans un contexte où il y a vraiment des centralisations. Le Parlement n'est pas forcément super représenté par rapport à la jeunesse et par rapport aux femmes, mais pourtant c'est l'antichambre de prise de décision dans un système normal. Vous comprenez? Pas dans les pays où les parlementaires sont là simplement pour applaudir lorsqu'on propose un texte de loi, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans les pays où il y a des vrais débats, il est important que nos membres du Parlement soient formés, qu'ils soient responsables.
Si je ne pouvais.
Au Sénégal, les jeunes s'engagent massivement dans la politique sur les traces de leurs aînés, hein, selon notre correspondant Seydina Abagay à Dakar.
Pour entrer dans la politique, les jeunes utilisent les mouvements citoyens, les regroupements étudiantins et divers types d'associations comme porte d'accès. La politique est pour eux un moyen de se former, mais aussi une voie rapide vers une vie sociale conforme à leurs aspirations. Aliou Ndiaye est l'un des responsables du mouvement des élèves étudiants du parti au pouvoir, l'APR.
Avec la politique, je pense qu'on acquiert de l'expérience. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, nous aimons la politique de nous raccrocher au moyen d'association sociale parce que il y a un engagement économique derrière l'engagement politique. Donc, ce fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'engagent dans la politique aujourd'hui pour pouvoir avoir une ascension sociale.
Pour Seydina Issa Laissamb, responsable des jeunes du Parti Socialiste Sénégalais, l'engagement en politique doit se faire au service de la nation, sans contrepartie.
Un jeune doit être ambitieux pour son pays. Comme le disait le président Kennedy, il ne faudrait pas se demander ce que mon pays fait pour moi, mais ce que je devrais faire pour mon pays. Donc ça, c'est un signal fort pour montrer que le Sénégal est sur une voie de développement, que les jeunes sont conscients des missions qui les attendent, et il serait important vraiment de matérialiser cet engagement, là, par un engagement pur, sans intérêt, désintéressé, et en prenant en compte les besoins des populations pour les traduire en actes concrets.
Concernant la violence dont les jeunes sont souvent accusés, le responsable socialiste du département de Dakar appelle les adultes à avoir des comportements responsables pour éviter les affrontements dans le champ politique.
Il faudrait que dans les organisations de masse, dans les partis politiques, que la démocratie puisse y prévaloir, que les discussions franches et sérieuses puissent exister et des débats de qualité pour éviter cette violence-là. Parce qu'en général, on note que la violence vient des désaccords. Et il faudrait tant soit peu que les adultes soient beaucoup plus regardants sur leur démarche, sur leur manière d'associer les jeunes aux prises de décision. Et là, je pense que la violence serait peut-être un mauvais souvenir sur le champ politique.
Au Sénégal, l'engagement politique de la jeunesse demeure une tradition. Plusieurs structures de la République sont dirigées par des jeunes issus des partis politiques. Cette accession au sommet de l'État est un objectif pour beaucoup de jeunes qui en font la source de leur combat politique. Cependant, une grande partie de la jeunesse demeure convaincue que tout engagement doit se faire de manière patriotique. Seydina Abagay, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
C'est la jeunesse ouverte.
Angèle Kouemo, vous voulez nous parler de l'initiative Arise?
Oui, avant de développer là-dessus, je vais renforcer ce que le jeune homme a dit sur le Sénégal. Et c'est vrai que, comme je disais plus tôt, il faut les canaliser, il faut canaliser la jeunesse, il faut l'inspirer et pas l'exciter. Et en général, les frustrations donnent naissance aux violences parce qu'il y a un sentiment de non-compréhension. Donc il est temps que les leaders, ceux qui sont déjà leaders politiques essentiellement, écoutent les doléances de leur jeunesse, des femmes et tout ça. Bon, ce qui en général n'est pas toujours le cas quand on rentre dans un contexte politique. Lorsqu'un jeune est engagé politiquement, bon, il est prêt à prendre des coups. Donc du coup, c'est un combat politique, donc c'est de bonnes guerres. Mais si on forme la société civile, il faut qu'on leur explique l'importance de la notion de service public. Donc on peut avoir un impact politique sans forcément être un homme politique. Et ça, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle du secteur privé qui est censé supporter la société civile. Donc en Afrique, des fois, on a des grosses multinationales, on dirait même que les gouvernements soutiennent la société civile. Donc en conséquence, ils sont pas partiaux. Comme on dit, parce qu'ils sont supportés par tel ou tel ministère, mais il faut aussi le secteur privé commencer à les philanthropes et les hommes d'affaires africains commencer à s'associer. Je pense que c'est déjà le cas maintenant à certaines causes. Ça donne la jeunesse ou la société civile un peu plus d'indépendance et la capacité de vraiment formuler l'opposition en toute liberté, sans que ce soit vicié ou corrompu. Donc l'initiative Arise, c'est Africa Renew, Inspired, Serve and Empowered. C'est une sorte de plateforme de rencontre qui est née de la sortie du livre. Lorsqu'on a fait le launch au congrès, donc j'avais associé d'autres auteurs noirs américains, des femmes noires, pasteurs de diverses sphères. Et on a décidé de se retrouver souvent pour échanger et discuter de nos problèmes respectifs et de s'entraider. Donc on a des rencontres tous les deux mois. La dernière rencontre a eu lieu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il y était une vingtaine de femmes, toutes professionnelles. Et c'est des rencontres off the record, comme on dit, où on s'exprime librement et puis on partage nos expériences. Et les femmes sortent en général très édifiées. Alors, c'est ça le RISE.
Entre parenthèses. Les groupes armés en Centrafrique occupent encore des écoles, empêchant des milliers d'enfants d'être scolarisés, selon Human Rights Watch. Disons que les milices contrôlent encore une grande partie de la campagne. On écoute Anna Albertson qui nous en parle.
Des milliers d'enfants en Centrafrique sont privés d'enseignement à cause des groupes armés qui utilisent leurs écoles comme base ou caserne. Pour Aboubakri Tal, représentant de l'UNICEF en Centrafrique, les écoliers sont doublement pénalisés.
That means basically a whole country that runs at a suboptimal level.
Cela signifie qu'un pays entier fonctionne au rabais. Lorsque les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils se retrouvent dans les rues et deviennent vulnérables à toutes sortes de choses, y compris être recrutés et utilisés par les groupes armés. Cela signifie que nous créons justement le genre de citoyens que nous ne voudrions pas rencontrer dans un coin sombre d'une rue quelque part.
Les forces gouvernementales ont peu de contrôle à l'extérieur de la capitale. À la campagne, les milices armées rivalisent pour les ressources minérales et les routes commerciales. Les bandits de grand chemin et autres groupes armés comme la LRA profitent aussi de la mauvaise situation sécuritaire. Louis Mudge, de Human Rights Watch, a enquêté sur l'accès aux écoles en Centrafrique entre novembre et janvier dernier. Il a constaté que même quand les combattants se trouvaient juste à l'extérieur de l'école, les élèves ne pouvaient pas y entrer, certains enfants devant passer par des miliciens qui ont tué des membres de leur famille.
Nous avons rencontré un certain nombre d'enfants qui ont exprimé avoir perdu l'estime de soi, avoir l'impression d'être sans avenir et n'avoir plus aucun espoir alors qu'ils avaient de grands rêves auparavant.
L'école primaire Saint-François à Bangui a été occupée par des milices anti-Balaka de 2013 à 2015. Ils avaient tout cassé et donné des armes aux élèves, se souvient le directeur Édouard Perret.
Ils détruisent tout ce qui est matériel. Donc, ils ont cassé les tables bancs. Quand ils sont passés dans les classes, il y a beaucoup de salles de classe qui n'ont pas de tables bancs. Les enfants, ça c'est à même le sol. Ils ont cassé les bureaux, ils ont cassé notre bibliothèque d'ailleurs. Ils ont emporté tous les livres. Ils ont mis l'école dans un état de délabrement vraiment regrettable.
Mais c'est une autre histoire en dehors de la capitale où le gouvernement négocie avec des groupes armés pour faire sortir les rebelles des écoles, explique Eugénie Lucienne Bondo, haut fonctionnaire au ministère de l'Éducation.
Nous souhaitons vivement que la paix revienne parce que l'avenir d'un pays, c'est l'école, ce sont les enfants.
Human Rights Watch assure toutefois que le nombre d'écoles occupées a diminué, en partie grâce à une initiative lancée l'année dernière par la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique.
Angèle Kouémo, je suis vraiment désolée, on n'a plus le temps de parler, c'est la fin de l'émission. Un petit mot, très bref, 5 secondes.
Tout ce que je peux dire, c'est que j'accuse. J'accuse, c'est inacceptable de voir des écoles détruites et j'accuse tous les leaders africains, j'accuse tous les gens qui ont la capacité de régler les problèmes de la jeunesse et des femmes africaines et j'accuse.
Merci beaucoup Angèle, merci, un grand merci, à très bientôt, au revoir.
Arrête.